Bonjour. On commence avec la chronique Au-delà des limites. J'avais vraiment hâte de vous présenter cette chronique cette semaine. On parle avec Salma Moudrika, qui est non-voyante depuis la naissance, souffrant d'ostéogenèse imparfaite. Elle est une première de classe. Elle découvre une façon de vivre plus, en guillemets, librement et devient chef de programme jeunesse à l'INCA. Au moment où j'avais écrit ça, c'était au mois de novembre dernier, elle n'avait que 28 ans. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Quand on parle avec des gens qui souffrent de cécité, on parle souvent de lecture. Mais là, on va parler beaucoup d'écriture. Et c'est pour ça que j'avais hâte à cette conversation. Bonjour, Salma.
Bonjour Yvan, bonjour Francine.
Bonjour, Salma.
Toujours 28?
Oui, toujours 28, heureusement.
Oh, mais là,
Ne pas faire
Salma,
passer le
Salma, on
cap.
savait.
Ouais, mais 30 ans, c'est un cap, hein. Je m'en rapproche, on s'en éloigne pas.
Aïe, aïe,
C'est la
aïe,
seule
aïe,
chose qui ne
aïe.
peut pas diminuer, mais on garde notre cœur d'enfant.
Mais là, on ne sait plus seulement si on a vraiment le goût de vous parler ce matin.
Là, tu parles à deux personnes qui sont
Mais
près
oui.
de la soixante-dizaine.
Ah, mais il y en a qui l'ont dépassé.
Alors,
Ouais.
notre cœur ne pleure pas beaucoup pour toi
Non,
présentement.
on n'a pas beaucoup d'empathie.
C'est bien correct. Je respecte ça également. Mais sachez que même si l'âge n'est qu'un chiffre, l'important, c'est de garder son cœur d'enfant.
Ah oui.
Et j'ai aussi des parents qui ont bien dépassé le seuil de la soixantaine et de la soixante-dizaine. Donc, je comprends cet état de fait.
Bon, merci beaucoup.
ceci étant établi, on a tous notre cœur d'enfant, grâce à toi et malgré toi. Parlons d'écriture. À un moment donné, dans la présentation que j'ai faite, je parle de découvrir une façon de vivre plus librement. Puis j'ai l'impression que l'écriture a quelque chose à faire là-dedans.
Oui, l'écriture a beaucoup à faire là-dedans, en fait. Et j'aime que tu aies mentionné ma maladie parce que je dirais que c'est aussi la pierre angulaire qui m'a fait commencer à écrire. Et j'aime vraiment comment tu le mets parce que c'est sûr qu'en étant aveugle complète et en ayant une maladie comme la mienne qui me restreignait énormément dans mes mouvements et dans les activités que je pouvais faire étant enfant et très fragile. Mais j'étais limitée à bien peu de choses. Et l'une de ces choses-là, oui, effectivement, était la lecture. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas suffisant dans la lecture. Il y avait quelque chose qui ne me permettait pas encore de m'évader totalement. La lecture me permettait cette évasion-là, mais elle me permettait pas de me faire connaître, de m'exprimer au monde. C'est comme si je ressentais que j'étais coupée du monde. J'avais pas un contact avec le monde extérieur et personne. J'étais comme enfermée dans une bulle, bien protégée, une petite prison barreau doré, certes, mais une prison quand même, et qui était non seulement physique, dû à toutes mes restrictions, mais également un peu dans ma tête aussi.
Oui. Mais je me
Donc,
souviens que tu nous avais parlé de surprotection, mais avec beaucoup d'amour, là. C'est pas pour se plaindre de cette situation-là,
non,
mais
absolument.
qu'à un moment donné, au début de ton adolescence, tu cherchais à t'exprimer autrement.
Oui, donc il y a eu beaucoup, bien évidemment, de surprotection. Et la base, ben, de la surprotection, on peut le deviner, c'est l'amour. Mais il y avait comme un contact que j'avais pas avec le monde extérieur. Je cherchais. Je pense que j'étais pas encore dans cette émancipation-là, mais je cherchais à m'exprimer, tu sais, à dire au monde, hey, je suis là, regardez-moi, écoutez-moi, voyez-moi.
Oui. Même si moi je vous vois différemment, c'est important que j'existe.
Ouais, exactement.
Mais
Et puis j'ai existé à travers ces textes-là que j'ai écrits, qui était
donc,
ma façon de rejoindre le monde.
j'ai l'impression que ça s'est exprimé par, j'imagine maintenant par un journal, entre autres, peut-être.
Oui, entre autres par un journal, mais c'est comme ça aussi de façon très fun que j'ai commencé aussi à écrire quand j'avais 13 ans. J'écrivais bien avant ça. Mes premières expériences d'écriture remontent à quand j'avais 8 ans, sur une vieille dactylo Perkins, hein, les aveugles de ce monde qui ont appris à écrire le braille là-dessus. Se joindront à moi pour me dire pour dire que ça fait bien du bruit mais et que ça prend bien du temps, hein, comparativement à un clavier d'ordinateur aujourd'hui, mais
ouais.
J'écrivais des petites histoires dans lesquelles je mettais en scène de très simples personnages, hein, avec début et éléments déclencheurs, dénouement fin, comme on apprend comme on nous apprend à l'école, et après ça ça s'est complexifié par la suite.
Francine a une question pour toi.
Oui, Salma, ces petites histoires, justement, comme vous les désignez, est-ce que vous les portiez vers les autres ou si vous les avez gardées pour vous, en fait? Est-ce que ça a donné lieu à publication ou autre?
Pas du tout. J'étais un enfant, je m'amusais. J'ai trouvé ça très, très drôle. Et je vous dirais même que, tu sais, en fait, avant même d'écrire sur la dactylo, ma famille me raconte des souvenirs de moi qui, vous savez, ces cassettes qu'on met dans un magnétophone, dont on bouche les trous pour réenregistrer par-dessus. Eh bien, j'avais des cassettes dont je bouchais les trous et dont j'enregistrais ma propre voix en train de raconter ces histoires-là. Je devais avoir 5-6 ans, donc ça remonte à loin. Donc, ça a été ma voix qui racontait. Après ça, ça a été écriture. Je n'ai pas gardé de traces de ces histoires-là parce que pour moi, c'était l'amusement d'un enfant, mais c'était beaucoup pour moi, pour un très grand plaisir.
Mais justement, on a trouvé... Non, c'est pas vrai. On n'a pas trouvé une de ces cassettes.
Comme les émissions à la télé.
On a trouvé une de ces cassettes.
Oui, c'est ça.
Mais tu parles de l'aspect technique, puis moi, ça m'intéresse beaucoup. Tu parles de la dactylo. Mais au début de notre conversation, tu disais que c'était important pour toi d'exprimer au monde que tu existais. Mais est-ce que le monde pouvait lire ce que tu produisais?
Oui, le monde pouvait lire ce que je produisais, mais je le partageais pas au grand public. Je le partageais à des amis qui étaient proches de moi. Je leur montrais quelques petites choses dont j'étais fière, surtout ce dont j'étais le plus fière. Je montrais pas mon journal, mais quand il m'arrivait là d'avoir des inspirations où j'écrivais des poèmes ou des chansons ou des nouvelles, je leur montrais, mais ça a beaucoup passé par mes amis mes enseignants qui étaient proches de moi.
Je comprends. Francine?
Oui, seulement tu as dit « je partageais ». Est-ce que ça veut dire que ces choses du passé, maintenant, tu partages?
Je partage encore, mais je pense que je partage moins parce que je pense que le monde étant ce qu'il est aujourd'hui, on est plus sensible à l'information qu'on partage, puis on ne sait jamais ce qui va advenir de ces écrits-là. Donc, je me dis, tant qu'à les partager, pourquoi ne pas les garder en préparation de quelque chose de plus grand?
Mm-hmm. Est-ce que tu es allé à l'école Jacques Ouellet pendant ton parcours primaire-secondaire? Est-ce que à cette école-là, on encourage les gens à écrire? Je sais qu'on encourage beaucoup les gens à lire. Il y a toutes sortes de techniques maintenant. Mais à écrire,
Comment c'est abordé? C'est une question très intéressante. À mon époque, aujourd'hui, je ne sais pas à quel point ça a pu différer. À mon époque, je pense qu'on se concentrait beaucoup sur les devoirs. On encourageait à écrire dans le cadre du cours de français, mais personnellement, j'ai jamais été encouragée plus, j'ai jamais senti plus que ça l'encouragement à écrire. Pour moi, l'encouragement à écrire est venu du fait de lire énormément, puis de ressentir un besoin un peu comme ces auteurs-là d'entrer en contact avec le monde d'une des seules façons que je connaissais et qui m'était accessible à ce moment-là.
Puis là, je m'adresse à la chef des programmes jeunesse à l'INCA. Est-ce qu'il y a des auteurs non-voyants qui pourraient être un guide, un phare pour d'autres enfants ou d'autres personnes non-voyantes?
Une source d'inspiration.
Ouais.
Oui, écoutez, ben pourquoi pas? Moi, personnellement, mes modèles n'ont pas été non-voyants, mais je pense notamment à Helen Keller, qui a été un grand nom de la littérature, qui était une femme sourde aveugle qui a appris à s'exprimer en par le langage des signes tactiles et qui, avec beaucoup de thérapie, a appris éventuellement à parler aussi. Elle a écrit beaucoup d'œuvres qui marquent encore la littérature aujourd'hui. Et pourquoi ne pas s'inspirer de son travail qui, je pense, est exceptionnel, surtout à une époque où on n'avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui.
Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a dans tes tiroirs présentement? Tu nous dis que tu as écrit des poèmes, des essais, même des chansons. Tu dois avoir un tiroir assez rempli de toutes sortes d'œuvres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare de ton côté?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? C'est très abstrait. En fait, ce qui est très drôle, c'est que j'ai retrouvé certains poèmes que j'avais écrits. On parle ici d'il y a entre 10 et 15 ans, entre à peu près 2010 et 2015.
Tu 2016. Remarques que tu parles de 10 et 15 ans, puis on est encore dans les années 2000. C'est comme...
Ouais, mais tu sais, de 2010 à aujourd'hui, ça fait 15 ans.
Oui, oui, effectivement.
J'ai trouvé
oui.
un texte de 2014, ça fait 10 ans, à peu près 11 ans. Donc, je sais pas à quel point ça va être bien ou moins bien perçu, mais... j'ai commencé à utiliser juste pour le plaisir, encore une fois, de mes oreilles, d'allier deux choses que j'aime, qui sont l'écriture et la musique. Je mets ces textes-là dans des logiciels d'intelligence artificielle qui produisent de la musique.
Ah.
Et je regarde le résultat. Ça peut sembler très, très drôle et même étrange au premier abord, mais je vous assure que le résultat est plus beau qu'on peut l'imaginer.
OK.
L'intelligence produit des chansons qui sont assez proches de ce qu'un artiste pourrait produire sans évidemment avoir la voix humaine,
oui.
mais une voix qui s'en rapproche. Est-ce que je pense à faire quelque chose avec ça? J'y réfléchis, mais ça s'est pas rendu plus loin. Mais comme j'ai dit au début, puis je le redis, pour moi, l'écriture, ça va toujours être un moyen d'entrer en contact avec l'âme des gens. Puis que je sois publié ou non, que je prépare ou non, pour moi, ça doit rester le même plaisir. Puis j'ai une règle dans ma vie, c'est que il faut que ça reste fun, il faut que ça reste du plaisir. Si je me mets une pression de rendement, de publication ou de performer avec ça,
oui, oui.
C'est là que je perds ma motivation. Beaucoup, je remarque. Donc, je préfère voir où la vie me mènera avec ces projets-là et garder ça comme un plaisir, comme le plaisir de l'enfant innocente que j'étais à 5 ans et qui enregistrait
les cassettes.
Qui enregistrait la cassette sur le magnétophone.
Ben, tu as commencé notre conversation en disant que tu cherchais une façon d'exprimer qui tu étais.
Oui.
J'espère qu'un jour j'aurai moi aussi le plaisir de lire qui tu es d'une façon ou d'une autre. Ça a été une très belle conversation. Merci beaucoup, Salma, d'avoir passé un peu de temps avec nous et au plaisir de se reparler éventuellement.
Avec grand plaisir. Merci, Yvan. Merci, Francine.